La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, philosophie réaliste et philosophie critique. Entre Gilson et Maritain, l'adjectif compte beaucoup. Pour Maritain, il s'agit du réalisme critique. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Claire.
Voilà nos auditeurs, nous vont se réjouir. Aujourd'hui, nous ouvrons une semaine de débats contradictoires qui se poursuivra la semaine prochaine autour évidemment de la même question depuis le mois de septembre, à savoir la lisibilité de la philosophie réaliste de Jacques Maritain par un auteur, un philosophe contemporain. Pour vous donner la parole, Jean-Christophe, je vais ouvrir avec un narthex qui est un plagiat de Maritain qui dit à propos de l'histoire « Ce n'est pas d'avoir eu tort ou raison, d'avoir triomphé ou vaincu, mais d'avoir été là. Et tous les deux, nous sommes là face à des textes qui nous posent question. »
Je vous remercie de cette invitation, Claire, pour poursuivre avec vous ce débat sur l'œuvre de Jacques Maritain. Alors, compte tenu des conditions face au confinement, on avait décidé de deux émissions de débat, et la première autour de l'importance des définitions dans tout débat philosophique, ainsi que sur la problématique de la pensée de l'absolu. Alors, sur cette première émission, j'essaierai autant que possible de m'en tenir au texte que vous avez proposé, du cours d'introduction de philosophie de 1920, ainsi que des éclaircissements que vous aviez apportés lors de vos trois émissions précédentes. Et pour la seconde émission, en commun accord avec vous, je proposerai une tentative d'ouverture des thèmes abordés par Maritain à travers des lectures contemporaines différentes.
Merci.
Alors, en remarque préliminaire, avant de proposer la lecture de quelques extraits du texte de Maritain, je veux dire à quel point la forme de ce cours de philosophie pourra paraître antiphilosophique pour un lecteur contemporain, au moins sur deux aspects. L'un qui est d'affirmer la valeur et l'autre de tirer des conclusions. Mais comme vous me l'aviez fait remarquer lors de notre discussion préalable, il ne faut pas oublier que ce cours était destiné à des élèves de terminale d'une école catholique pour qui ces affirmations et ces valeurs devaient faire sens. Bon, il n'en reste pas moins qu'un tel cours aujourd'hui serait disqualifié car il ne propose pas d'ouverture vers d'autres philosophies que celle de Maritain, largement héritée du thomisme. Et il serait tout autant par l'affirmation de l'absolu de certaines valeurs. Alors, pour ce qui concerne les conclusions telles qu'elles sont libellées dans son texte, je propose de les prendre ici comme des résumés de chapitres plutôt que comme des conclusions de pensée.
Tout à fait, c'est son propos d'ailleurs.
Voilà. Donc, voici les deux conclusions que je propose, je vous l'ai dit. Conclusion 1. La philosophie est connaissance scientifique qui, par la lumière naturelle de la raison, considère les causes premières ou les raisons les plus élevées de toutes choses, ou encore la connaissance scientifique des choses par les premières causes, selon que celles-ci concernent l'ordre naturel. Et sa conclusion 2, la philosophie est la plus haute des connaissances humaines, et elle est vraiment une sagesse. Les autres sciences humaines lui sont soumises, en ce sens qu'elle les juge, qu'elle les dirige, et qu'elle défend leurs principes. Elle-même est libre à leur égard et ne dépend d'elle que comme d'instrument dont elle se sert. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture et je vais essayer de voir avec vous le problème rencontré à propos des définitions. C'est le premier problème que j'ai vu en lisant les textes de Maritain. Et pour tout débat philosophique, il s'agit quand même de s'accorder sur les définitions. Alors, il me semble que le sens des mots et des concepts qui sont sous-tendus dans le texte de Maritain sont empreints d'historicité et de référence à une philosophie médiévale, le thomisme, qui a été réactualisée une première fois à la fin du XIXe siècle et qu'il essaie de réactualiser une deuxième fois dans ce cours de 1920. Alors, il me semble que le problème réside aussi dans le fait que Maritain entretient l'ambiguïté en utilisant ces définitions à la fois dans leur sens originaire et dans leur sens contemporain, alors qu'elles n'ont plus du tout le même sens aujourd'hui. Et je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le mot « science ». Qu'est-ce qu'on entend par « science » ? De mon point de vue, le problème vient de ce que Maritain prend le mot « science » à la fois dans le sens de « sagesse du savoir ». Il écrit « la philosophie est bien une sagesse », car le propre de la sagesse, c'est de considérer les causes les plus élevées, mais aussi dans le sens de « connaissance ». Et cette définition est très éloignée de ce qu'on nomme « science » aujourd'hui. Ce manque de clarification conduit, de mon point de vue, à la confusion et non pas au dialogue.
Alors, je vais essayer d'éclairer un peu votre lecture. La première, c'est de rappeler que dans ce livre « Introduction générale à la philosophie » qui date de 1920, les parties conclusives auxquelles j'ai fait référence dans les émissions précédentes et auxquelles vous faites référence maintenant, sont précédées de notions historiques qui constituent le premier chapitre dans lesquels il passe en revue finalement les philosophes depuis l'Antiquité, les présocratiques, Platon, Aristote, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, en faisant une différence entre sagesse et philosophie, et c'est-à-dire la science. C'est un premier point de vue. Le deuxième, je vais reprendre un texte qui suit cette fois-ci le passage des conclusions que nous discutons actuellement et qui se pose la question de la formation dans la raison, dans l'intelligence humaine, des idées universelles. Parce que c'est là que se définit la science, c'est quand elle est capable de s'attacher à l'universel, puisque pour Aristote, il n'y a pas de science du particulier. Maritain reprend cette idée et va dire que la métaphysique est la reine des sciences parce qu'elle s'occupe que de l'universel. A contrario, l'histoire, qui ne s'occupe que de l'événementiel, donc du détail qui peut aller jusqu'à l'infini, n'est pas une science. Donc comment se forment les idées pour passer à l'universel ? Donc Maritain prend un exemple, et c'est pour ça que je l'ai choisi, pour nos auditeurs. Il dit comment cette opération d'extraction du réel, donc des sens passant de l'image à l'idée, peut-elle avoir lieu. Et il dit que c'est une sorte de lumière intellectuelle comparable, si l'on veut, au rayon X dont on use pour voir le squelette à travers la chair, qui s'appliquant à l'objet introduit en nous par les images, en fera jaillir pour notre intelligence quelque chose qui était contenu là, mais caché, et que les images ne présentaient pas par elles-mêmes. Ce quelque chose ainsi extrait, libéré de ce qui fait l'individualité de l'objet, parce que libéré de ce qui fait la matérialité de la connaissance par les sens, sera la forme ou la similitude intelligible de l'objet qui vient, pour ainsi dire, s'imprimer dans l'intelligence pour la déterminer à connaître. On voit ici ce qu'on appelle chez Aristote le nous poietikos, c'est-à-dire l'intellectus agens en termes latins de saint Thomas d'Aquin. C'est cette capacité humaine qui permet la notion de science chez Aristote et chez Maritain parce qu'elle accède à l'universel. Voilà. Alors je ne sais pas si ça éclaire votre lecture ou si vous préférez rebondir sur tout à l'heure une deuxième question et essayer de souder les deux en fin d'émission, je vous donne la parole.
Alors, on est peut-être... je sais pas quand est-ce que vous voulez faire votre séquence musicale, mais si vous voulez, on peut déjà conclure un petit peu sur ce premier aspect. Moi, je dirais que la définition que vous donnez, c'est une définition antique de la science. Elle a sa valeur en tant que définition antique, mais que mon point, c'est que la science contemporaine n'est plus du tout définie de cette manière. Mais j'y reviendrai plus tard, si vous voulez, à propos justement de la séparation entre sagesse et science.
Eh bien, reposons-nous avec un petit peu de musique. Merci.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Bonjour Jean-Christophe, le physicien que vous êtes est heurté par la définition de la science chez Jacques Maritain en 1920.
Oui, tout à fait. Alors donc, comme je l'ai dit, il y a deux sens en fait du mot science. Un sens ancien que vous avez brillamment évoqué lors de votre précédente intervention, et un sens contemporain. Et évidemment, l'ambiguïté est de cumuler les deux sens. Alors, la deuxième ambiguïté que je vois, c'est de lier ce mot de science avec celui de sagesse. Alors, c'est la sagesse, pour Maritain, est appliquée aussi bien à la philosophie qu'à la théologie. C'était une confusion qui était courante à l'époque de la Grèce ancienne, mais aujourd'hui, de nouveau, la sagesse et la philosophie sont parfaitement séparées. La sagesse, par exemple, ne prétend pas du tout donner des explications ou même un jugement. Elle est essentiellement une praxis, une façon d'être au monde. Le dernier livre de François Julien traite de ce sujet avec un titre très évocateur, « Un sage n'a pas d'idée ». Quant à la philosophie, elle se détache précisément de la sagesse par le fait qu'elle prononce des jugements articulés sur des enchaînements logiques et qu'elle s'autorise parfois, mais très rarement, à des explications, le plus souvent sous forme d'hypothèses. Les explications, tout comme les enchaînements logiques, sont vérifiées aujourd'hui par l'expérience dans des disciplines scientifiques. La théorie scientifique étant, suivant les définitions modernes admises aujourd'hui, falsifiable. C'est-à-dire qu'elle doit contenir la possibilité d'introduire des cas particuliers qui peuvent la contester. Si tel était le cas, elle doit alors être modifiée pour englober ces cas particuliers dans une nouvelle théorie, et elle ne peut pas, par conséquent, être dogmatique. C'est ce qui la distingue d'une idéologie ou d'une croyance pure. Lors de votre émission du 4 novembre, vous faisiez un bref rappel sur ce qu'est le thomisme, et vous évoquiez notamment le fait qu'il existe dans le thomisme deux types de sagesse. Une sagesse par l'étude, per studium, ou encore une sagesse de connaissance, et une sagesse par infusion. Et pour Thomas d'Aquin, la sagesse par infusion est un don de l'Esprit-Saint. Alors pour les tenants de cette doctrine thomiste, Dieu, l'Esprit-Saint, les anges, sont des êtres de nature différente de celle des hommes, et en reprenant les mots de Thomas d'Aquin, il est impossible de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et des créatures. Alors on voit bien ici que pour un penseur non-croyant d'aujourd'hui, malgré tout l'intérêt historique que ça présente, ce type de définition sur la différence d'être et le caractère absolu des dogmes ne lui parle absolument pas, même avec la plus grande largesse d'esprit. Alors, dans votre émission du 4 novembre, vous citiez Maritain qui disait « Il y a encore ceci de, à propos du sens commun, il y a encore ceci de considérable, étant formée comme armée de principes d'une grande largeur d'application, elle répond aux nécessités non pas d'une époque seulement, mais de tous les temps, et elle est souverainement propre pour vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. » Pardon, c'est vraiment la philosophie, la doctrine thomiste qu'il s'agit d'ici. Alors, ce qui est un peu dérangeant ici, c'est le fait de considérer cette philosophie souverainement propre à vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. Il y a là une impression de supériorité qui relaie d'ailleurs dans son cours à travers des expressions qu'on a pu voir comme la plus haute des connaissances, les autres sciences lui sont soumises, qu'elle juge et qu'elle dirige, ou encore comme instrument dont elle se sert. Et c'est un peu cette attitude de surplomb idéologique qui ne favorise pas, pour moi en tout cas, un dialogue avec des philosophies qui n'adhéreraient pas à la doctrine thomiste. Et puis d'autre part, on retrouve un corpus sémantique de Maritain autour de Dieu, de mission divine, du péché, de la servitude, qui ne peut qu'un rebuter un lecteur non-croyant.
Alors je vais essayer de répondre en faisant appel à un autre texte qui est pratiquement contemporain de l'introduction générale à la philosophie. Il s'agit d'un article paru dans la revue Universelle le 15 mai 1921 et qui s'intitule « Une philosophie de l'histoire ». Et dans cet article, après être revenu sur ce que je disais tout à l'heure, l'histoire comme n'étant pas une science, Jacques Maritain va interroger le dialogue qu'il peut avoir avec justement le monde moderne. Et il écrit « Pour le monde moderne, l'esprit ne vise plus à dégager les raisons intelligibles des choses, à se saisir d'un être qui soit vraiment son bien et qui lui permette de distinguer dans le réel les nécessités essentielles des liaisons accidentelles. » On a ici finalement un concentré de ce que vous disiez qui se divise en plusieurs finalement plans. Le premier, c'est celui, ben, vous l'avez évoqué, de l'analogicité de l'être, la pensée analogique, qui n'est ni l'univocité ni l'équivocité. J'en ai un peu parlé dans les émissions précédentes. L'analogie, c'est justement un principe va s'appliquer de manière différente dans l'histoire. Et du coup, on échappe à la relativité inhérente aux paramètres conditionnants qui dépendent du temps et du lieu, de la géographie, de l'espace donc, et du temps. Et on va garder un paramètre déterminant qui est celui de la nature spirituelle de l'homme. C'est vrai qu'on est complètement en porte-à-faux parce que le thomisme, donc la philosophie réaliste, part de ce réel, à savoir que l'homme est un être spirituel. Certes, un sage n'a pas d'idée, et Maritain le reprend très bien au début de cet article, quand il dit que si la philosophie de l'histoire n'est pas une science, il dit « l'histoire elle-même ne porte que sur des faits individuels et contingents, elle est une mémoire et une expérience dont il appartient aux prudents d'user. » On est bien dans la prudence, donc dans la sagesse, parce qu'on est en philosophie pratique. La sagesse concerne la philosophie pratique. La science, c'est bien la philosophie spéculative, donc c'est la métaphysique avec ce principe d'analogicité de l'être. Et je crois que là, ça peut éclairer beaucoup de choses, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans cette recherche, finalement, qui implique un troisième credo philosophique, c'est-à-dire la notion de finalité, que l'homme est fait pour un sens, et cette recherche finalement du sens profond des choses, on est complètement étranger finalement à la pensée moderne. Ce qui nous permet de rebondir sur ce dont on a beaucoup discuté ces derniers jours en préparant l'émission, le problème d'un faux vis-à-vis, d'une fausse symétrie, celle d'un absolu et celle du relativisme. C'est-à-dire que l'absolu, comme vous disiez, on a le sentiment qu'il parle d'une posture depuis un balcon, de surplomb, parce qu'il y a la révélation en amont, c'est-à-dire que Maritain, dans ce même article, va écrire que finalement, la seule manière de faire de la philosophie de l'histoire, c'est d'en faire une théologie. Actuellement, c'est illisible par un de nos contemporains, mais ça se conçoit complètement dans une philosophie chrétienne où la subalternation des disciplines permet ce surplomb. Le relativisme, lui, finalement, il est moins ouvert que l'absolu, parce que Maritain dit, certes, il y a l'absolu, la révélation chrétienne détient la vérité, mais il y a des vérités cachées partout. Donc on va réintégrer, voir ce qui est bon dans tel point de vue, d'où la philosophie critique, réaliste, parce qu'elle va réintégrer l'apport de la modernité, de la Renaissance, donc le retour critique sur soi-même. Tandis que le relativisme n'est pas symétrique, parce qu'il va exclure l'absolu, il va dire l'absolu ne peut être qu'un relatif. Il va rentrer dans l'histoire, comme vous le disiez, c'est une philosophie qui date, et finalement on la fausse. Alors que la posture dite de surplomb ne fausse pas le relativisme, elle le réintègre. C'est là qu'on est dans un débat de fond qui, pour moi, est compliqué parce que j'ai du mal à accepter la posture relativiste. Voilà, on va réouvrir le débat dans le petit temps qui nous restera après la plage musicale. Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Bonjour Jean-Christophe et merci pour ces belles plages musicales que vous avez choisies, ainsi que les belles photos que vous faites très souvent et qui servent au site. Je vous laisse la parole pour les 3 minutes qui nous restent pour que vous puissiez conclure et ouvrir sur le prochain débat de la semaine prochaine.
Très bien, merci Claire. Alors je vais revenir, je suis désolé sur cette position de surplomb, parce que dans un passage qui précède la deuxième conclusion, voilà ce qu'écrit Jacques Maritain. Mais la philosophie, et surtout la philosophie au sens le plus élevé, c'est-à-dire la métaphysique et la science souveraine, elle est donc compétente pour juger toutes les autres sciences humaines, rejetant comme fausse toute hypothèse scientifique qui contredit ses propres résultats. Prenons par exemple une hypothèse de physique qui semble contredire une vérité de philosophie. La physique est compétente pour juger cette hypothèse par les lois de la physique, mais la philosophie est également compétente pour la juger d'après les principes de la philosophie en déterminant si et dans quelle mesure elle contredit réellement la vérité philosophique en question. Si la contradiction est réelle, il est évident que l'hypothèse de la physique en question doit être fausse, car une vérité ne peut en contredire une autre. Le physicien doit donc s'incliner devant le verdict de la philosophie, réviser ses arguments et faire d'autres expériences. Et je répète, le physicien doit donc s'incliner devant le verdict de la philosophie. Mais qui aujourd'hui, sérieusement, pourrait admettre qu'un physicien devrait s'incliner devant un métaphysicien qui nous dirait que ses hypothèses sont fausses? On est en plein délire. Ici, quand je parle de délire, je prends dans le sens du verbe latin, hein, délirare, et s'écarter du sinon. Pour pouvoir expliquer ça, je reviens à ma première remarque, c'est-à-dire le manque de précision sur les définitions des concepts de base, comme ceux de sagesse ou de science, pour expliquer cette sortie du sinon. Et je ne veux pas dire par ici que le délire ne serait pas porteur d'une certaine puissance de réflexion. Je veux simplement souligner qu'il ne fait pas partie de la pratique scientifique. Je sais bien, vous l'aviez rappelé lors d'une émission précédente, que Maritain a suivi un cursus de biologie en 1907, mais de même que l'étude des textes théologiques ne fait pas de quelqu'un un croyant ou un pratiquant, de même l'étude d'un cours de biologie ne fait pas de quelqu'un un scientifique. La connaissance scientifique doit nécessairement s'accompagner d'une pratique scientifique qui inclut l'expérience et l'observation. Et ce sont elles seules qui peuvent contredire les hypothèses de départ.
Oui.
Les hypothèses scientifiques, c'est des croyances axiomatiques, d'une certaine façon, et elles ne peuvent s'incliner que devant des faits d'expérience ou d'observation. Et ça ne se fait dans les sciences, telles qu'on les définit de manière moderne aujourd'hui, qu'à condition que les théories scientifiques soient elles-mêmes falsifiables, c'est-à-dire qu'elles donnent la possibilité d'être contredites par des faits d'observation. Toute autre théorie ne peut être que dogmatique. Je fais remarquer au passage que c'est l'erreur, la faute, qui fait la valeur d'une théorie scientifique, alors que c'est précisément la faute qui est perçue comme péché dans le dogme chrétien.
C'est une remarque très intéressante, mais qui nous renverrait à un débat trop long pour être ouvert ici. Il s'agit ici en fait de la subalternation des disciplines. La physique règne dans son domaine, mais par la subalternation, on a la science supérieure qui est la métaphysique et la philosophie, puis les autres. C'est tout l'enjeu des degrés du savoir écrit en 1932. Je préfère que vous nous donniez un motus pour réfléchir pendant cette semaine à l'ouverture à la philosophie contemporaine que vous nous proposez pour le débat de la semaine prochaine.
Très bien, Claire, ce sera avec un grand plaisir.
Voilà, si vous voulez terminer par un petit mot.
Bien, je voudrais dire aux auditeurs que la semaine prochaine, on va essayer d'ouvrir un petit peu le débat vers des lectures de philosophes plus contemporains pour essayer de voir un petit peu les ramifications possibles de la pensée de Jacques Maritain.
Conformément à ce qu'il dit, dans ma jeunesse, j'ai cassé des vitres, puis j'ai tâché d'ouvrir des portes. À la semaine prochaine.